La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, deuxième semaine autour du corps dans la philosophie réaliste. Après un portail d'entrée autour de l'être et du corps, voici aujourd'hui le signe et le corps ou le corps et le signe. Le corps et le signe, pourquoi ? Parce que le signe est, on va dire, une monnaie avec un appert et un avers, un recto et un verso, qui nous permettent de passer du visible à l'invisible. Et dans les quatre essais sur l'esprit dans sa condition charnelle, Jacques Maritain insiste sur cette notion de signe et de symbole, et il va partir de témoignages, trois, il en donne trois, Marie Hurtin, Hélène Keller et Ludivine Lacchance, qui sont des aveugles sourds muettes, trois femmes, et il montre qu'à partir de cette expérience, donc du corps, pour passer à l'idée, on peut comprendre la notion traditionnelle de signe pratique. Voilà comment Maritain voit les choses. La naissance de l'idée, et donc de la vie intellectuelle en nous, semble liée à la découverte de la valeur de signification d'un signe. L'animal use de signes sans percevoir la relation de signification. Percevoir la relation de signification, c'est avoir une idée, un signe spirituel. Rien de suggestif à ce sujet, comme cette sorte de miracle qu'est le premier éveil de l'intelligence chez des aveugles sourds-muets. Il dépend essentiellement de la découverte de la relation de signification d'un geste à l'égard d'un objet désiré. La clé de voûte de la vie intellectuelle, c'est le signe. Cette page est fondamentale. Actuellement, nous avons en vis-à-vis toute une approche de l'homme à partir de l'animal, montrant que finalement l'homme est quelqu'un de centré sur lui, surtout l'homme occidental, l'homme du logos, et qu'il faudrait qu'il soit plus humble, parce qu'il est considéré comme prédateur de la planète, comme conquérant des terres qui ont été exploitées sous la colonisation, bref, comme un prédateur dangereux. Et il lui demandait d'être plus humble sous une forme de cure de passivité. Vous reconnaissez ici les propos du philosophe Baptiste Morisot qui invite l'homme à faire une cure en passivité, c'est-à-dire à se tenir dans la nature, les Alpes, la forêt, et d'écouter les bruits pour se rendre compte d'une part qu'il n'y a pas une nature mais des natures, les oiseaux, le bruit de la fourmi à côté de moi, le craquement des arbres, plus lointainement le torrent qui s'écoule, etc. Et cette cure en passivité permet à l'homme par son corps de se rappeler sa proximité avec l'animal. L'animal vit cette cure en passivité en permanence en étant un corps dans une nature, ou plutôt dans des natures. Et finalement, cet estompement, on va dire, de la distance entre l'homme et l'animal va être un oubli de l'intelligence, une perte du logos. Pour Maritain, ici, est avancé que la clé de voûte, c'est le signe, non pas comme objet, mais comme moyen d'avoir accès à la signification, au sens. Et la cure en passivité, même si elle n'est pas mauvaise, de temps en temps, pour nous rappeler que nous sommes aussi une partie animale, la signification est la caractéristique de l'homme. Et ce n'est pas un instinct. Donc, réfléchir sur la notion de signe, c'est réfléchir sur l'intelligence de l'homme ancrée dans le concret, même si cet adjectif ou ce substantif ne sont pas du tout familiers à Maritain, ancré dans le réel, ancré dans la corporité du monde qui m'entoure à partir de mon senti du corps. Et Maritain pousse le raisonnement un peu plus loin. Il concerne aussi la vie sociale, et pas uniquement moi comme individu. Dans l'ordre de la vie sociale, le signe ne joue pas un rôle moins important, écrit-il à la suite. comme la prise de conscience individuelle, la prise de conscience sociale dépend de lui. Une cité, une classe, une nation prend conscience de soi par ses symboles. En Dieu seul, la vie intellectuelle n'use pas de signes. Dieu se connaît, et toute chose, par son essence. C'est le privilège de l'acte pur. Donc on le voit, le signe est lié à notre condition d'homme fini, marquée par l'espace et le temps, et c'est lié à la capacité d'avoir accès à la signification. Je vais faire une petite parenthèse par Aristote. Dans les parties des animaux, Aristote répond à Protagoras qui dit mais finalement l'homme est inférieur aux animaux parce qu'il n'a pas d'organes spécifiques. On va avoir les crocs, les dents, les ailes, les griffes qui permettront aux animaux de se défendre, le bec, les ongles, etc. Mais l'homme finalement est nu. Il est pauvre parce qu'il n'a plus de cornes, de bec, de griffes, etc. Il n'a que des mains. Et Aristote répond en disant « Ses mains forment sa richesse. Pourquoi ? Parce que c'est parce qu'il est intelligent qu'il a des mains. Et du coup, la main va être prolongée par un outil, un pinceau quand on est peintre, un crayon quand on dessine, un couteau quand on aiguise pour couper de la viande, pour couper un carton, etc., ou pour manger. Et du coup, notre polyfonctionnalité de la main va dépendre de notre intelligence, c'est-à-dire de ce que l'on veut faire. Et c'est d'une certaine manière imposer au corps une autre corporéité. Je résume, l'intelligence n'a pas d'organe. Le cerveau n'est pas l'organe de l'intelligence. L'œil est l'organe de la vue, l'oreille, l'organe de l'ouïe, le nez, l'organe olfactif. Mais l'intelligence n'a pas d'organe à proprement parler parce que la main, et d'une certaine manière le corps tout entier de l'homme, va devenir intelligencié. Autrement dit, le corps change de définition et on ne peut pas dire que l'homme est uniquement un animal amélioré ou évolué. Il y a une rupture. C'est comme si le corps devenait un plus, un autre corps, du fait qu'il y ait l'intelligence. Et cette réponse d'Aristote à Protagoras est fondamentale. Ce n'est pas parce qu'il y a la main que l'homme est intelligent, mais c'est parce que l'homme est intelligent qu'il y a la main. Et cette nudité de l'homme sans organe de défense ou d'organe approprié lui permet justement d'avoir un corps qui va aller vers la signification, d'où l'importance du signe. Après ces magnifiques pages de Poulenc dans les improvisations, nous revenons sur l'importance du signe. Les anciens divisaient, vous savez, en deux le savoir, donc le plan intellectif, le plan spéculatif dont la finalité est de connaître, et le plan pratique dont la finalité est de faire. Et ce même plan se divise en deux, le faire au sens de faire une œuvre d'art, c'est donc le factibilé, pour le traduire en latin, et le faire en tant que faire vivre, c'est ce qu'on appelle l'éthique, la morale, c'est l'agibilé, comment j'agis. Eh bien, le signe va suivre cette même distinction. Les anciens écrits maritains, dans 4 et 16 sur l'esprit dans sa condition charnelle, divisaient le signe en signe spéculatif et signe pratique. Le bien de l'intellect spéculatif est le vrai, purement et simplement. Le bien de l'intellect pratique est le vrai, comme conduisant à l'action droite d'une manière ou d'une autre. L'intellect pratique présuppose le vouloir. Son objet est, en tant même qu'objet connu, quelque chose à poser dans l'existence et à concrétiser dans l'action. Du coup, vous le voyez, le sacrement appartient au signe pratique. C'est le sommet, on va dire, du signe pratique. Et nous avons vu la semaine dernière comment le sacrement introduit dans l'Eucharistie une causalité efficace et efficiente qui permet d'avoir, on va dire, l'apothéose du signe pratique par le sacrement d'Eucharistie qui associe la causalité à un corps transformé dans l'acte de transsubstantiation. Pourquoi est-il important de faire cette différence ? Eh bien, cette différence, elle est fondamentale par rapport justement au corps. C'est-à-dire qu'on ne va pas, il ne faut pas confondre plan pratique et plan spéculatif parce qu'ils n'ont pas la même finalité. Du coup, confondre les deux, c'est d'une certaine manière ou bien atrophier l'intelligence, donc qui va chercher à connaître, ou bien atrophier la volonté elle-même, qui concerne le plan pratique. Et vous le voyez dans l'exemple de la cure en passivité, on a finalement non seulement une atrophie de l'intelligence, on demande à l'homme finalement d'être dans son corps sensible, mais une atrophie aussi de la volonté, parce que l'approche mélange les deux finalités. Vous avez un autre contexte qui nous interroge, c'est celui des spas, des jacuzzi, qui deviennent une sorte de passage obligé, une injonction pour être bien. Quand vous avez un problème, même psychologique, une sorte de dépression, de coup de barre, l'injonction c'est « reprends-toi en main, vas-y » et ça passe par le corps. Si tu fais du sport, les hormones de jouissance qui vont être sécrétées au bout de 1000 km de marche ou je ne sais quoi, eh bien, le massage, on appuie sur des centres nerveux, tu vas voir, petit à petit, ton corps va faire que ton psychisme va reprendre le dessus. Cette injonction, elle est finalement liée à un néolibéralisme qui veut qu'on soit toujours en état d'être au mieux de sa forme pour acheter, pour être performant, parce que l'homme est considéré comme un homo faber, un homo qui fait et qui doit produire. Si vous vous définissez comme quelqu'un, que fais-tu à 30 ans, je fais rien, ou je prie, mais sans être dans une institution, ou sans être religieux, etc., on va commencer à vous regarder, il y a un grain, quoi, c'est pas possible. Il faut qu'il fasse, qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Il faut produire quelque chose. Du coup, c'est la même injonction par rapport au corps. C'est un corps performant, productif, que proposent nos contemporains, et il y a confusion, finalement, des deux plans. Le plan spéculatif et le plan pratique. Pour revenir au signe, il y a une complexité. C'est que les anciens vont faire une différence entre le signe instrumental et le signe formel. Alors regardons de plus près avant de revenir à Poulenc. Tantôt le signe est quelque chose qui, d'abord connu soi-même, fait consécutivement connaître autre chose. Un ruban de fumée que nous voyons monter dans l'air, un portrait que nous voyons dans un musée, sont des objets sur lesquels notre connaissance porte d'abord, pour passer de là à d'autres objets connus, au moyen de ceux-ci, au feu dont la fumée est l'effet et le signe, au modèle dont le portrait est l'image et le signe. Ce sont là des signes instrumentaux, des signes choses. Et c'est le cas de tous les signes dont nous avons l'expérience, sauf d'une catégorie privilégiée constituée par les signes mentaux qui interviennent dans l'acte de connaître, l'image, le souvenir, le concept. Vous voyez ici que le concept est rangé dans les signes instrumentaux. C'est fondamental parce qu'il y a une conception finalement, on va dire fusionnante ou aplatissante du concept et de la chose qu'il donne à connaître. Et si on aplatit cette façon de faire, on n'est plus dans le signe, on n'est plus dans une intellection, et du coup on n'est pas dans un véritable logos. Et Maritain nous éclaire en disant « Les scolastiques appellent ces sortes de signes des signes formels, nous pourrions dire des signes purs, écrit-il entre parenthèses, ce sont des formes mentales dont toute l'essence est de signifier avant d'être eux-mêmes connus comme objets. Ces signes-là ne sont connus que de la connaissance même qui, par leurs moyens, porte l'esprit à l'objet. En d'autres termes, pour exercer leur fonction de signe, ils sont connus non en apparaissant comme objet, mais en disparaissant devant l'objet. Le souvenir, la forme mentale conservée dans la mémoire, n'est pas ce qui est connu quand nous nous souvenons. C'est le pur moyen par lequel nous connaissons directement l'événement passé. De même, le concept n'est pas ce qui est connu quand notre intelligence est en travail. C'est le pur moyen par lequel nous saisissons directement un aspect intelligible des choses. C'est fondamental, cette distinction, pour bien comprendre ce qu'est l'intelligence, puisqu'il s'agit, à travers le corps, de réfléchir sur le propre de l'homme. À tout à l'heure. Le signe nous permet d'aller aux choses. Ici, je vais faire une petite parenthèse sur un mot que vous avez peut-être entendu, c'est le mot connaissance par intentionnalité. C'est quoi ? En fait, les signes qu'on vient de voir, images, souvenirs et concepts, sont de purs élans, des sortes d'intentions de l'esprit vers l'objet. Et c'est cette connaissance par élan qu'on appelle connaissance par intentionnalité. Celui qui va retrouver cette connaissance par intentionnalité, c'est Brentano. Brentano a servi de modèle à Husserl. Et Brentano prend cette connaissance par intentionnalité, qui revient à la connaissance scolastique, par opposition à l'idéalité, à l'idéalisme, si vous voulez, de Kant. Et l'intention, au sens scolastique, au sens thomiste, c'est en fait que le sujet connaissant devient l'objet connu, avec cet élan vert qui est finalement propre à ce signe formel qu'est le concept. C'est très important parce que la connaissance, vous le voyez, est quelque chose de spirituel, quelque chose qui n'est pas matériel. On va le voir dans les prochaines semaines, on va s'arrêter un peu sur le stoïcisme et le corps, tout est matière. Le signe permet une connaissance et une connaissance éminemment spirituelle, au sens de fine, au sens de éthérée, mais pas du tout incorporelle. Donc, c'est parce que le signe est signe formel qu'il est au creuset de l'acte de connaissance et d'une connaissance qui est proprement réaliste. Pourquoi ? Ben, vous le sentez tout de suite, c'est qu'il y a un décentrement du sujet. Le sujet, en devenant autre, en devenant l'objet connu, se décentre de lui-même. On est à l'opposé finalement d'un idéalisme où le sujet va produire des idées ou bien va fabriquer une connaissance. La connaissance va être conçue sur le mode de la fabrication extérieure à lui. C'est ce qu'on appelle une connaissance qui aboutit à quelque chose de transitif, qui sort de lui. Alors que la connaissance, vous voyez, elle est immanente. Et c'est fondamental parce que dans la cure de passivité proposée par exemple par Baptiste Morisot, il y a peut-être la quête d'un retour à quelque chose de plus immanent qui a été raté au plan conceptuel parce que la réponse à l'idéalisme n'est pas assez aboutie alors que Brentano était parti sur une très bonne idée par l'intentionnalité et que peut-être il y a une prééminence du corps au sens corps physique, en commun avec l'animal, avec les plantes, avec le cosmos, un corps sensible, purement sensible, et un oubli du corps qui peut servir par les sens à produire le concept. Du coup, c'est tout ça, l'enjeu de la réflexion sur le corps. Maritain va poursuivre autour de quelque chose que je vais juste aborder, on y reviendra dans l'année, c'est le signe magique. Le signe magique est fondamental parce qu'il le voit comme quelque chose qui vient de la connaissance des primitifs. Et la connaissance des primitifs, pour lui, n'est pas une connaissance à négliger, à mépriser. Elle est simplement un autre état. Si vous voulez, la notion de nature et d'état est fondamentale chez Maritain. Je le prends au plan de la philosophie. La philosophie n'a pas changé de nature entre l'Antiquité et le christianisme. Elle a changé d'état avec l'incarnation du verbe, comme l'eau est la même dans l'eau gazeuse, dans l'état gazeux, dans l'état de gaz, et dans l'état liquide et dans l'état de glace. C'est la même chose pour, on va dire, la philosophie, et ici pour le signe. Le signe magique, la connaissance magique, c'est une prééminence de l'imagination dans ce qu'on appelle les peuples primitifs. Mais c'est un changement d'état, ce n'est pas un changement de nature. C'est un modèle, on va dire, plus lunaire de connaissance par l'imagination qui est opposé ou complété par le modèle solaire du concept. Maritain revient là-dessus. Je vais vous laisser sur une citation de Lucien Lévy-Brul qui donne raison à Maritain dans une lettre et ça nous permettra de comprendre ou peut-être de prolonger avec tout l'apport actuellement du chamanisme. On oppose le concept au chamanisme avec un retour finalement à la magie par le corps, c'est pas faux, mais c'est pas un état semblable à l'état de concept. Et voilà ce que Lucien Lévy-Brul écrit à Maritain le 8 mai 1938. Comme vous le dites très justement, la mentalité primitive, entre guillemets, est un état de la mentalité humaine et je puis accepter les caractères par où vous la définissez. À la semaine prochaine.